France Musique.
Bonne fin de soirée à vous, Elsa Fotorino, et à très bientôt sur France Musique.
France Musique.
À l'improviste va vous proposer ce soir une performance qui résulte d'un aller-retour. En janvier dernier, France Musique vous a offert toute une nuit d'improvisation jusqu'au bout de l'impro, dans les murs du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Cette fois, c'est le Conservatoire qui vient jouer dans les murs de la radio, et plus exactement la classe dite d'improvisation générative du Conservatoire. Alors que fait-on dans cette classe? On improvise librement, même si cela paraît aller de soi, en ayant pour seule boussole l'écoute et l'envie, la nécessité même d'inventer sa propre musique. Prêt, partez, nous sommes ce soir avec les étudiants de cette classe et leurs deux guides, Alexandros Markeas et Vincent Lekwang.
À l'improviste. Anne Montaron.
L'improviste a accueilli le 11 avril dernier dans son studio une dizaine d'étudiants du collectif d'improvisation du Conservatoire de Paris. Quatre soufflants, trois instrumentistes à cordes, trois percussionnistes, un manipulateur d'électronique et un pianiste. L'ambiance, vous l'imaginez, était animée, l'envie de jouer palpable et même contagieuse. Aucune consigne, rien de convenu entre les musiciens et l'équipe d'un improviste, mais comme la dernière fois que ce collectif s'était fait entendre sur nos ondes, il s'était amusé avec l'esprit irrévérencieux de Kagel, rendant hommage à sa manière à Beethoven, eh bien, il en restait forcément quelques traces.
Thank you.
Thank you.
les percussions ont pris le relais lors de cette performance en collectif. Rubens Lopez et Florent Darras, rejoints par Baptiste Thiébaud à la batterie, et Stanislas Makowski à l'électronique live, ou plus exactement au carlax, un instrument de musique tout à fait étonnant.
Le carlax, c'est un contrôleur MIDI, en fait. C'est-à-dire ce qu'après, moi, je contrôle. Et il y a positions différentes de l'instrument. Puis je choisis les boutons et ça c'est connecté avec par mon ordinateur. J'ai fait un logiciel qui peut permettre de choisir les sons, de faire les traitements, etc. Donc c'est plutôt un instrument qui permet de faire beaucoup de choses en même temps. C'est très pratique parce que en fait tous les autres sons s'espacent sur l'ordinateur en fait.
Donc tu peux traiter aussi les autres?
Oui, c'est ça en fait. Voilà. J'ai un micro et puis je capte le son en temps réel et puis je traite en temps réel aussi avec le carlax ou avec les autres instruments MIDI que j'ai pris avec moi.
Alors comme c'est l'instrument le moins ordinaire de tout cet orchestre, comment t'es venue l'idée de jouer de ce carlax? Comment l'as-tu découvert?
En fait, on a au conservatoire, on a un instrument, celui-là. Et puis une fois, comme j'ai vu, qu'est-ce qu'on peut faire avec le carlax, parce qu'en fait... Beaucoup d'instruments, même si on joue sur ordinateur, il y a que clavier, il y a un souris, mais puis ça nous permet pas vraiment de faire beaucoup de choses en même temps. Mais ça aussi, le carlax qui vient, c'est que quand on bouge, ça aussi nous permet de d'être aussi en sorte de danseur aussi avec l'instrument, et ça crée aussi en sorte de show, petit show aussi.
Il y a un rapport physique à l'instrument.
Oui, en fait, parfois je bouge aussi sur la scène. Aujourd'hui, on était plutôt statique parce qu'on était avec le groupe de percussion, mais on peut aussi bouger parce que ça, c'est le sans-fille. Et voilà.
Thank you. Thank you.
flûte, deux saxophones et un trombone, les vents du collectif d'improvisation du Conservatoire de Paris, Samuel Bricot, Mai Toyama, Pierre-Marie Laprand et Félix Bassic improvisaient à leur tour en associant souvent la voix au souffle. Ce soir-là, à Radio France, les étudiants de la classe d'improvisation générative ont renoué avec ce plaisir du jeu collectif auquel ils se consacrent à chaque fois qu'ils se retrouvent dans la classe de Vincent Lecuang et d'Alexandros Markeas, eux-mêmes improvisateurs. Cette classe, elle est née en 1993 au Conservatoire de Paris. Alain Savouré en a été l'initiateur.
Il y a les trios qu'on faisait de la fausse lecture en Conferat avec Tom, Félix et puis Elsa.
C'est une jeune mouture, là, ils sont là dans la classe depuis deux ans, un an pour certains.
Oui, il y en a peut-être qu'ils n'étaient pas nés quand la classe a été créée, hein, c'est comme quoi.
En tout cas, il y a deux choses très importantes dans cette classe-là, c'est l'écoute et c'est l'invention, je crois.
Et évidemment, parce que l'improvisation telle qu'on la pratique avec une vraie ambition de création demande d'être inventif, mais elle demande d'être à l'écoute de tout. L'écoute de l'autre, l'écoute du monde, l'écoute de l'instant, l'écoute du temps qui passe, l'écoute du temps présent. Évidemment, chacun met après les curseurs sur les choses qui lui tiennent le plus à cœur, les questions des références ou la question de l'inouï, trouver des sons qui n'existent pas, trouver des instants de musique qui ne rappellent rien du tout. Mais une fois de plus, c'est quand même l'écoute du monde qui est la chose qui nous nourrit le plus.
Ils ont occupé tout l'espace de notre studio et tous les degrés, même toutes les marches de la scène. Tout en haut, les percussions, un cran en dessous, les vents, et de plein pied, le trio à cordes qui vient de se faire entendre, la violoniste Elsa Moati, l'altiste Maël Bailly et le contrebassiste Victor Aubert. Ils sont étudiants dans la classe d'improvisation du Conservatoire supérieur de musique de Paris, mais certains d'entre eux ont déjà une activité professionnelle ou sont sur le point de l'avoir. C'est le cas de Maël Bailly, musicien particulièrement inventif.
Avec Elsa qui était au violon ce soir, on a un quatuor à cordes de ciné-concert où on mélange une composition originale pour un film et des moments d'improvisation, voilà, où c'est un film des années 30 qui s'appelle Le Bonheur, qui est un film très vivant,
magnifique,
très drôle, un film soviétique. Et voilà, on a voulu le revisiter en musique. Donc, j'ai travaillé sur la partition écrite et vu que je connaissais les musiciens avec lesquels je travaillais, que j'adorais improviser avec eux et que j'aime bien l'improvisation, que ça me stimule pour la composition et inversement, je me suis dit que j'allais faire moitié-moitié, déléguer un peu une partie de ce travail-là. Et puis voilà, on est très contents du résultat, on aimerait beaucoup jouer ce truc-là parce que ça nous paraît être un projet où ça marche bien, quoi, la composition contemporaine, l'improvisation et un film drôle, assez vivant et qu'on recommande.
Il fait bien sa promotion, hein. Donc l'appel est lancé. Qui sont les deux autres larrons alors ?
Alors il y a Sarah Collon, une violoniste, et Maïtiaré Cognard au violoncelle, qui sont on est tous les quatre improvisateurs et on joue des partitions. Bon, il y a de plus en plus de musiciens comme ça, j'ai l'impression.
Les trois accords, c'est fa mineur, si diminué, et la
Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai.
Sur le plateau de notre studio, la silhouette du saxophoniste Vincent Lecoing vient d'apparaître pour diriger les étudiants dans l'improvisation. Cela peut sembler paradoxal, et il n'y a d'ailleurs pas de pupitre dans notre studio, pas de partition non plus, mais les étudiants et Vincent Lecoing ont en commun la connaissance d'un certain nombre de signes à partir desquels ils vont improviser collectivement. C'est ce qu'on appelle le sound painting. Vincent Lecoing est l'un des grands praticiens de cette discipline. Il a eu pour initiative l'américain Walter Thompson.
J'ai collaboré directement avec Walter Thompson, qui a inventé tout ce langage des signes à partir de la fin des années 70. Évidemment, il n'est pas le premier à avoir eu cette idée de donner des signes pour réaliser une musique ou un type de musique, ou un type d'interaction entre les musiciens. En revanche, il s'est vraiment posé de manière très précise la question d'une syntaxe de tous ces signes entre eux, si bien que les signes ne sont plus simplement associés à un type de musique, comme ils ont pu l'être au tout début du sound painting, mais ont vraiment une signification de type conceptuel, et agencés les uns avec les autres, ils peuvent dire des choses du coup assez subtiles, assez précises, étonnantes, voire même quelquefois, on peut faire des oxymores de sound painting, comme par exemple... long tone with pointillism feel, ou de toutes sortes de choses qui peuvent. Je dis souvent, le sound painter, il est impératif pour ses musiciens, ou il est incitatif, mais il peut même être interrogatif.
Tu te poses en situation de compositeur quand tu diriges?
Je pense que c'est probablement, oui, la meilleure définition de cette activité. Compositeur en temps réel.
En temps réel.
Parce que, évidemment, je ne peux pas faire abstraction d'un son d'un tel ou d'un tel que je n'avais pas prévu, ou alors qui n'a pas compris ce que j'ai demandé, ou alors j'ai été trop rapide, qui n'a pas vu mon signe. Ce serait une grave erreur de ma part d'ignorer cette réalité.
Il y a deux choses qui me frappent toujours dans des configurations, des contextes de sound painting. C'est d'abord l'importance du regard de la part des musiciens, parce qu'évidemment, ils sont rivés à des signes qu'ils ont intégrés, qu'ils connaissent, évidemment, qu'ils ont appris.
Le regard, c'est évidemment indispensable de par la configuration même de cette chose. Cela dit, donc, comme je le disais, si un signe est raté, on n'est pas censé le suivre. Ce qui veut dire, par exemple, quand on peint, je dis ça parce que c'est finalement le meilleur moyen de parler de ce sound painting, quand on peint avec des danseurs, dès qu'ils nous tournent le dos, ils ne nous voient pas. Donc il faut savoir composer avec le fait que les gens ne nous voient pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend, et il ne faut pas donc vouloir que tous les signes soient vus et savoir faire avec, avec des choses qui ont été ratées. Et d'un point de vue du regard aussi, ce qui est une difficulté pour ceux qui suivent mes signes, c'est effectivement de rester tout aussi concentré et à l'écoute de ce qui se passe. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen que de longues heures de pratique.
On pourrait penser que le regard phagocyte l'écoute, parce que dans l'improvisation, on sait que l'écoute est essentielle, et on pourrait craindre qu'effectivement le regard l'emporte à un moment donné, ou l'attention portée au geste l'emporte sur...
C'est un danger inévitable. Cela dit, je pense que le regard, dans certains cas, et quand on sait le dompter, ou en tout cas le faire renforcer l'écoute, il peut réellement apporter quelque chose, parce qu'il nous permet de prendre une conscience de l'espace précise, des quatre murs dans lesquels on sonne. Donc j'ai longtemps joué, et c'est une réflexion que je partage souvent avec eux, je joue encore beaucoup, et j'ai longtemps joué les yeux fermés, mais je me rends compte que de les ouvrir n'est pas forcément nuisible.
Thank you.
Des accords presque parfaits pour refermer cette performance improvisée le 11 avril dernier dans nos murs à la radio. Des accords à la Beethoven avec un zeste de Mauricio Kagel et évidemment beaucoup d'humour. Nous étions ce soir avec les étudiants du collectif d'improvisation du Conservatoire de Paris, Félix Bassic, Samuel Bricot, Victor Robert, Mae Toyama, Maël Bailly, Pierre-Marie Lapran, Elsa Moati, Rubens Lopez, Florent Darras, Stanislas Makowski, Baptiste Thiébault et Tom Georgel. La suite improvisée qu'ils nous ont offerte avait quelque chose d'un pot pourri et se souvenait par moments, je l'ai dit, du Ludwig van de Mauricio Kagel autour duquel ils ont travaillé justement l'improvisation collective toute cette année scolaire. Alexandros Markeas.
On avait fait un premier concert où on a essayé d'être le plus fidèle possible à l'infidélité que Kagel demande par rapport à Beethoven. Après, pour la nuit de l'impro, on avait fait un souvenir de Ludwig van de Kagel. Et ce soir, on a fait un souvenir du souvenir de Ludwig van de Kagel. C'est-à-dire, comme ça nous est impossible de faire la même chose, même si on fixe, on s'en éloigne, et puis finalement, ça devient autre chose, et puis tant mieux. Mais il y a quelque chose de Beethoven qui reste, et de l'esprit dada de Mauricio Kagel.
Est-ce que l'un d'entre vous veut s'approcher d'un micro et dire ce que vous vous étiez dit avant d'entrer sur scène ? Tom ?
Oui. On a régulièrement l'habitude de ne pas tout prévoir, ne se faire confiance et au dernier moment réunir les personnes. Et on a retravaillé sur un élément en entrée, en introduction, qui était de travailler sur une partition, mais à vue, en fait, c'est une partition qu'on ne sait pas jouer. Qu'on voudrait bien savoir jouer, mais qu'on ne sait pas jouer. Et qu'on traite un peu avec un peu d'humour, avec un peu de...
Dérision.
Oui, et puis pour, quelque part, à la fois pour rendre hommage et à la fois pour dérider un peu cette musique. Et sans c'est suivi des recherches timbrales, j'imagine, quelque chose d'un peu de la musique de chambre, un peu... touché par les connexions timbrales de chacun des instruments, un ensemble un peu percussif avec le carlax comme compagnon, les instruments avant, les cordes et pour finir un grand ensemble de tutti. Je crois qu'on a la conviction qu'on peut improviser en tutti, on peut improviser en large ensemble et c'est une grosse difficulté, mais ça nous plaît de tenter et retenter à chaque fois.
Improviser en large ensemble, c'est donc possible. Les jeunes improvisateurs du Conservatoire de Paris nous l'ont montré. Retrouvez les images de ce concert à Radio France sur le site de l'émission grâce à Jean-Michel Després. Un grand merci aussi pour la prise de son de cette performance extraordinaire à Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux, Yacine Monet et Philippe Mercher. Françoise Cordet a réalisé cette émission avec Pascal Bénard et Soizic Noël. Il est minuit sur France Musique à l'écoute des sons de la nuit. Il y a bien des musiques à improviser, c'est ce que vous proposent nos programmes de nuit.